pas bu quelques verres, ce qui a fait qu'il a su s'approcher et me confier tout un tas de combats qu'il avait dans sa propre vie. Et avec ce qui s'est passé, je me rappelais une parole de Carlos Payan, qui nous a parlé à ACP, il y a 2 semaines, là. Et donc Carlos Payan disait, il rappelait que Jésus était l'ami des pécheurs, il était surnommé l'ami des pécheurs. Et on lui disait, ben, il mange avec les publicains, on ne s'y partageait pas leurs péchés, évidemment, mais son amour était tellement fort qu'il allait les rejoindre et qu'il n'y avait aucun obstacle pour qu'il puisse les rejoindre et leur communiquer son amour. Ouais. Et Carlos Payan, il disait, bon, on devrait, nous, être un peu enivrés, inhibés par le Saint-Esprit pour franchir les obstacles qui nous séparent des pécheurs. Et ces deux qui étaient un petit peu alcoolisés, dont un qui a pu, sous l'effet de l'alcool, confier tous ses problèmes, m'a rappelé cette exhortation. Parce qu'on est quelquefois distant, quoi, finalement, on est parfois loin des pécheurs sans Dieu. Et pourtant, nous sommes aussi, nous, des pécheurs rachetés. C'est ça la différence. On est loin. Quel est le pécheur à qui, la dernière fois, nous avons dit, ben, tu sais, moi, je marche avec Jésus, viens marcher aussi avec lui. Il y a quelque chose qui nous retient. On l'a tous confessé ce matin. On est trop pudique. Et on a besoin du Saint-Esprit pour franchir les obstacles, pour aller vers les pécheurs et leur communiquer l'amour. Hein. D'accord ? Voilà. Bon, je voulais juste compléter ça. Alors, on va prier juste avant de voir la parole, hein, parce que moi, je ne peux rien faire. Ce matin, j'ai prié, je dis, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, la parole va juste être un discours, puis qu'il n'y aura aucun effet. Alors, j'ai envie de demander l'aide du Saint-Esprit pour que cette parole soit vraiment reçue comme une semence qui produit du fruit. Seigneur, voilà, nous recevons ta parole comme du pain ce matin. C'est peut-être une toute petite semence qui va être semée, peut-être un petit grain, mais ce petit grain peut devenir un arbre, porter plein de fruits. Seigneur, je te prie pour que ta parole, elle plante quelque chose là dans nos cœurs, elle grave quelque chose dans nos cœurs, ce matin. Amen. Amen. Voilà. Alors, il y a 3 semaines environ, j'étais poussé à faire du rangement dans ma bibliothèque. Je trouvais qu'il y avait des livres, peut-être, il y a beaucoup de livres qui s'entassent, c'est des étagères plutôt qu'une bibliothèque. Hein, c'était les étagères de chaussures de mon père. Donc j'ai mis tous mes bouquins là et j'étais poussé à faire du rangement. Il y avait beaucoup de bouquins, je me suis dit peut-être qu'il y a quelques bouquins que je vais mettre de côté. Et puis alors j'étais surpris en faisant ce rangement que j'avais des trésors dans ma bibliothèque, des trésors parmi mes livres. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, je l'ai même pas lu, ce livre-là ou celui-là. Je l'ai lu, mais il y a si longtemps, je ferais peut-être bien de le relire. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce livre-là. Voilà, la maison préférée de Dieu. C'est le titre de mon message. La maison préférée de Dieu. Alors, je suis tombé sur ce livre qui parle de rechercher la présence de Dieu. Vous êtes d'accord que Dieu est présent ? Il est omniscient, omniprésent. Mais nous voulons que sa présence soit manifeste. Et ça, c'est autre chose. Soit manifeste, c'est-à-dire que vraiment la gloire de Dieu, elle vienne au point que il y a un effet immédiat. Et alors le Saint-Esprit m'a parlé à travers ce livre de nouveau, et juste avant que je me remette à le lire, en quelques jours je l'ai relu, la petite voix du Saint-Esprit m'a dit, ce trésor de ma présence, t'es loin d'avoir tout découvert, loin, 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 loin. Et le Saint-Esprit m'a fait un petit reproche, m'a dit, tu avais beaucoup de zèle pour rechercher la présence de Dieu, un peu moins maintenant. Tu ne voudrais pas te remettre à être ce chercheur de Dieu, ce chasseur de Dieu. Vous savez, celui qui a écrit ce livre, il en a écrit un autre, quelques années avant, qui s'appelle « Chasseur de Dieu ». Alors cette petite voix
m'a entraîné à, de nouveau à la lecture de ce livre. Je vais vous dire quelques mots de ce livre. Évidemment, je ne vais pas tout vous dire. En une demi-heure, je ne peux pas. Hein, d'accord. Je vais souligner quelques points. Et l'auteur introduit son livre en parlant de la nostalgie de la maison de son grand-père qu'il avait. Et son grand-père était chrétien. Et un jour, il a emmené toute sa famille, parce qu'il a vécu toute son enfance là, il a des souvenirs. Il a emmené toute sa famille, qui n'était pas si intéressée que ça, finalement. Il était un peu déçu. Mais il a fait le tour de la propriété. Là, c'était un lieu où je me cachais, je jouais avec d'autres enfants, etc. Il a fait le tour, etc., de cette maison. Et pour lui, c'était vraiment un événement important. Et après cet événement, dans sa prière, hein, après ce voyage pèlerinage, quoi, il médite la parole de Dieu aussi, et il reçoit Actes 15-16. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai. Et ça, c'est une parole que Luc a repris du livre d'Amos, au chapitre 9. Alors il s'est posé la question, tiens, qu'est-ce que Dieu veut dire? Pourquoi il veut relever la tente de David? Et pourquoi pas le tabernacle de Moïse? Et pourquoi pas le temple de Salomon, qui était bien plus luxueux, glorieux? Et une petite voix, la petite voix de Dieu lui a dit, parce que cette tente, c'était ma maison préférée. Dieu lui a dit cela. On peut passer la première diapo. Voilà. La maison préférée de Dieu. Qu'est-ce que j'ai mis? Là où la passion pour lui est prioritaire. La passion pour lui est prioritaire. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que pour dire que Dieu préfère la passion au palais. Alors, ce n'est pas une invitation à être dans une maison désordonnée, sale, pas belle, de ne pas prendre soin de nos bâtiments du tout. Hein. Mais ça remet bien en place la priorité. Attention, Dieu préfère toujours la passion au palais. Toujours. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Jamais, jamais. C'est la passion, voilà ça, vous avez une image un peu du... Voilà, David, lui, il louait dans une tente auquel, à l'intérieur, il avait mis l'Arche de l'Alliance qui contenait, vous savez, les tables de la loi, la verge d'Aaron aussi, et puis même la manne aussi, qui était conservée, hein, miraculeusement, qui conservait sa fraîcheur. Il y avait au-dessus le propitiatoire, et on va en parler tout à l'heure. Et puis David adorait là, avec les siens. C'est la passion qui animait le cœur de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu veut restaurer la passion pour lui dans l'Église. Dieu appréciait énormément la recherche de sa présence par David. Ah, il appréciait. David était un chasseur de Dieu. Et on voit quand il ramène l'arche à Jérusalem, il se mit à danser de joie. Il avait su que la maison d'Obed, je ne sais plus comment il s'appelait, mais où l'arche était pendant un temps, Obed, je ne sais plus la suite, mais ouais, cette arche était dans une maison et cette maison était bénie. Il se réjouissait de ramener l'arche. Mais plus que l'arche, vous savez, au-dessus de l'arche, il y avait une nuée bleue. Je dirais, David, il était plus attiré par la nuée bleue que par l'arche lui-même. Et la nuée symbolisait la présence de Dieu. La présence. Et vous savez, le tabernacle de David, par rapport au tabernacle de Moïse et au temple de Salomon, c'était la seule structure qui ne contenait pas de voile de séparation. Finalement, il fallait ce voile parce que Dieu est saint. Mais Dieu n'aime pas trop ce voile. D'ailleurs, quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Et je pense que Dieu a tu poussais un cri. Enfin, enfin, je vais pouvoir avoir cette intimité avec mes enfants, être tout proche. Dieu ne veut pas se contenter d'un droit de visite de ses enfants, il en veut la garde. Pas étonnant donc qu'il ait déchiré ce voile. La seule chose dans le tabernacle de David qui entourait la présence de Dieu, c'était les adorateurs. Et vous savez, ils ont servi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pendant 36 ans. David a mis en place avec Asaph et avec les Lévites un service. Il dit, je veux que constamment, constamment il y ait cette adoration. Et c'est pour ça que on voit aussi un peu partout, et même en France, il y en a quelques-unes, des lieux où 24 heures sur 24, 365 jours par an, il y a l'adoration. Quelques lieux en France, comme à Toulouse, à Jérusalem, il y a au moins 4 endroits comme ça. David ne pouvait pas se satisfaire d'une visite temporaire, il en demandait plus. Et ça explique tout ce qu'il a mis en place. Mais nous, est-ce qu'on veut seulement se contenter d'une petite visite de Dieu, de quelques frissons, d'une onction? Il traite d'un point que je ne vais pas traiter aujourd'hui là-dedans, mais il ne faut pas seulement chercher les bras de Dieu, les mains, mais il faut chercher sa face. Il ne faut pas seulement chercher les dons, mais il faut surtout chercher le donateur. Surtout. 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 Alors quand on est un peu visité par Dieu, on dit « Ah, Dieu est là !» Mais la question est, et Dieu est ici, mais la question c'est « Dieu va-t-il rester ? » Voulons-nous qu'il reste ? Est-ce qu'on veut une petite visite de Dieu le dimanche matin ? Ou est-ce qu'on veut qu'il reste avec nous? Et donc le tabernacle que David a érigé est devenu la demeure préférée de Dieu en raison de l'identité de ceux qui adoraient, de la passion qui les animait. Vous comprenez, hein? La passion. Et donc l'auteur de ce livre qui s'appelle Tommy, donc si vous entendez Tommy, c'est l'auteur du livre, hein, il a écrit ce livre pour que les lecteurs acquièrent la passion qui était dans le cœur de David. Alors ce livre, je l'ai relu et par sa grâce, il y a quelque chose qui est un peu renouvelé dans cette passion. Je me relève tôt le matin, c'est un peu plus facile. C'est l'été, il fait chaud, il y a la fraîcheur le matin. Alors, j'espère que ça va continuer en hiver. Mais ça sera une autre question peut-être en hiver. Voilà. Mais il y a quelque chose qui revient un peu. Voilà. Ah, les tentations sont là, les combats sont là pour m'éloigner de cette intimité, mais je veux persévérer. Alors, j'ai relevé un premier point sur la maison préférée. Je vais en relever trois autres. D'accord ? Trois autres points sur plusieurs points qui traitent. Et pour traiter le deuxième, je vous lis deux passages bibliques. Le premier est très connu. Tiens, j'ai pas pris. Ah, il est là. Hein. Ouais. Donc ça va. Il est ouvert. Oui, il est ouvert. Donc le premier est très très connu. Le deuxième un peu moins. Le premier, c'est Apocalypse 3:20. Voilà. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Verset qu'on cite souvent pour les non-croyants et qu'il est en fait beaucoup plus pour les croyants. Ouais, ouais. Parce que quelquefois, Jésus peut être à la porte de nos vies, de nos villes, de nos églises même. Ah, attention. Hein. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec. Et le deuxième, c'est tiré du Cantique des Cantiques. Là, je n'ai mis que le début, mais je veux vous lire en entier, enfin, le verset en entier. Hein, vous savez, ça traite de Salomon, hein, tout l'amour de Salomon pour sa fiancée. Hein. Et c'est une image de Jésus. Salomon symbolise Jésus, sa fiancée, l'Église que nous sommes. Et Salomon dit, voilà, Jésus dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, bah, j'ai ôté ma tunique, comment je vais la remettre? J'ai lavé mes pieds, comment je vais les salir à nouveau? Et Tommy a cette expression étonnante. Il dit ceci. Le Saint-Esprit fait les magasins à la recherche de la prochaine ouverture. Il se tient à la porte d'entrée de nos églises, cherchant des hommes, ou des femmes, bien sûr, comme David, qui lui ont préparé une résidence de choix. Un endroit où les adorateurs sont disposés à soutenir la porte des cieux en levant les bras, afin que la gloire de Dieu descende et demeure au milieu de Dieu. Dieu cherche une personne, une église, une ville, qui entende sa frappe douce et légère, et lui ouvrira la porte. Alors dans le premier passage, Jésus se tient à la porte d'une église tiède et frappe. Dans le second passage, donc, hein, vous avez compris, le bien-aimé représente Jésus qui frappe à la porte de son épouse, qui représente l'église. Et vous avez entendu la réponse de la bien-aimée, « Bon, hein, j'ai ôté ma tunique, j'ai lavé mes pieds, comment ?» Elle ne s'est pas levée de suite, donc. Et quand plus tard elle veut se lever, son bien-aimé est parti. Ah, et il n'y a plus que l'odeur de son parfum. Jésus, nous sommes la fiancée du Christ. Il frappe à notre porte pour dire son désir d'intimité avec nous. Et je crois qu'à chacun, il lui dit, Michel, tu me manques. Huguette, tu me manques. À chacun, il dit, tu me manques. Je veux passer du temps avec toi. C'est ça le message. Je veux passer du temps avec toi. Alors attention à ne pas nous installer dans un confort excessif au point de refuser d'ouvrir la porte. Parce qu'on ne trouve pas ça commode. Comme, ah, j'ai lavé mes pieds, je vais les salir. On a tellement de choses à faire. On a tant de choses à faire. Attention à ne pas tomber dans une apathie qui fait qu'on peut bouger trop lentement ou trop occasionnellement. C'est ce que dit Tommy. Lorsque notre bien-aimé frappe à la porte de notre cœur. Oui, il y a certains coups à développer notre intimité avec le Seigneur. Et Tommy écrit ceci, il dit « Le refus de l'Église de payer le prix relativement élevé de l'adoration intime est la racine même de sa stérilité. » Ah, attention, ça nous fait réfléchir. Être chercheur de Dieu conduit à sortir de notre zone de confort. Mais dans la suite du texte « Cantique des Cantiques », on voit que la passion est revenue dans le cœur de la bien-aimée. Et elle va dire, je suis malade d'amour. Elle va chercher avec passion son bien-aimé, elle va sortir de la zone de confort et elle va le retrouver. Que ce soit un encouragement pour nous. Lisez le Cantique des Cantiques, si vous voulez être un chercheur de Dieu. Et je me souviens que juste pendant que je lisais ce livre, je tombais sur un verset de Jérémie, « Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Rappelons-nous que le joug en Jésus est léger. Et la passion pour lui adoucit la souffrance dans notre obéissance. D'accord? Alors donc, le deuxième point, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, de notre Église, de notre ville, allons-nous nous lever. Peut-être demain matin, vous allez vous réveiller plus tôt, c'est peut-être le Seigneur qui vous réveille. Peut-être dans la journée, vous avez un programme, tant de choses à faire, et à un moment, le Saint-Esprit va vous frapper à la porte. Michel? Je ne vais pas dire que Michel, Thérèse, Sylvie, Didier, viens, prends du temps avec moi. J'ai besoin, tu me manques. Tu me manques. Ouais, amen. Alors nous devons chercher Dieu, nous lever et lui ouvrir quand il frappe. La serrure et la clé sont de notre côté. Nous devons le chercher pour lui préparer une maison, c'est le thème, une résidence de choix. Et là, Tommy raconte une histoire vraie. Il a un ami qui qui a une grande valeur, un ami chrétien, avec vraiment un chic type. Et cet ami a un gros problème de poids. Cet ami a un gros problème de poids qui lui pose problème parce que dans plusieurs endroits où il va, il casse les chaises où il s'assoit. Ben oui, il casse les chaises. Et c'est en larmes souvent que cet ami lui raconte que ben, par la suite, il est obligé de dire non à des invitations. Et parfois, il sonne à la porte pour aller apporter une nouvelle et la personne en face lui dit « Mais viens, assieds-toi, boire un coup ». Il regarde dans la maison et il voit que s'il n'y a pas de siège capable de supporter son poids, il doit dire non. Et donc c'est en larmes qu'il lui raconte ça. Et Dieu a parlé à Tommy à travers cette histoire. Et Dieu lui a dit que parfois je suis comme ça. Parfois je ne veux pas rentrer parce que je ne vois pas le siège préparé pour supporter le poids de ma gloire. Nous avons à préparer une résidence, une maison, un siège pour Dieu, pour supporter le poids de sa gloire, parce que c'est un poids, sa gloire. Hein. Et Tommy reçoit cette conviction, je dois élever un autel. Par mon adoration et mon intercession en même temps. Moi, je sépare rarement adoration et intercession. Pour moi, c'est ensemble. Quelquefois, on sépare les deux, mais je pense qu'un grand adorateur est un grand intercesseur. Un grand intercesseur est un grand adorateur. Je dois élever un autel par mon adoration, mon intercession, pour amener et retenir la gloire de Dieu. Et Tommy a compris que cette résidence a préparé est un propitiatoire. Il a compris ça. Et je vais vous expliquer. Ouais. Je vais vous expliquer ce qu'il a compris. Élevons un propitiatoire entre la gloire de Dieu et les pécheurs. J'ai corrigé ce matin, parce que j'avais une PE accent circonflexe. Waouh. Je vais corriger ça. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un propitiatoire vous avez entendu ce mot, c'est un mot qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche que vous avez vu. D'accord? On va le voir dans un moment. Alors, je cite le dictionnaire biblique. Hein. Couvercle de l'arche, appelé en hébreu kaporet, qui veut dire couverture. Ce terme en hébreu, ce terme ne désignait pas simplement le couvercle de l'arche, mais évoquait à la fois le lieu et l'acte par lequel le sacrifice expiatoire rendait Dieu propice, favorable aux pécheurs. Le propitiatoire était d'or pur. Il mesurait 2,5 coudées de long sur 1,5 coudée de large et formant corps avec lui à chacune de ses extrémités. On va le voir dans un moment. Il y avait un chérubin. Et les deux chérubins se faisaient face, les ailes étendues, inclinées vers le propitiatoire. Une de leurs ailes descendait vers le propitiatoire, tandis que la deuxième rejoignait celle de l'autre chérubin. Et la gloire de l'Éternel se manifestait entre les chérubins. Et là, l'Éternel rencontrait son peuple et s'entretenait avec lui. Le voilà, hein? Le voilà. Voilà le propitiatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, élever un propitiatoire? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Alors, deux aspects sont soulignés par Tommy, l'auteur du livre. Le Seigneur lui a parlé à travers Exode 25, 18, où il est dit « Tu feras deux chérubins d'or aux deux extrémités du propitiatoire, deux chérubins d'or battus. » Deux chérubins d'or battus. Et le Saint-Esprit lui a parlé à travers le mot « battu », de l'or battu. Et il a compris. Il a dit que pouvoir édifier un propitiatoire, nous devons adopter notre position d'adorateur purifié. Est battu. Ça parle de pureté, ça parle de brisement. On sait tous que l'or est raffiné, à l'aide d'une température, très élevée, qui fait apparaître à la surface les impuretés, les scories. Et voici ce que rajoute Tommy, écoutez bien, c'est important. Nos ailes d'adoration ne peuvent être fabriquées que d'une seule manière. Elles doivent être battues pour épouser la position et l'image qui conviennent. Les coups de marteau de la vie nous inclineront en direction de Dieu si nos réponses aux défis de la vie sont justes. Parfois, nous réagissons de manière erronée à ce que la vie nous envoie. On a tous des épreuves. Comment nous réagissons ? Nous pouvons vivre même des injustices. Comment nous réagissons ? Nous pouvons vivre des épreuves, la maladie, comment nous réagissons ? Et parfois nous réagissons de manière erronée, donc à ce que la vie nous envoie. L'adversaire profite alors pour nous sortir de notre position. Et au lieu de devenir meilleurs, nous sombrons dans l'amertume. Ce qui signifie que nos ailes d'adoration ne sont pas placées où elles devraient l'être. Dans le plan de Dieu, les coups de marteau de la vie doivent aider nos ailes d'adoration à prendre leur position afin que nous puissions devenir une personne qui, en toutes circonstances, rende grâce. Voilà la position que nous devons prendre. Rendre grâce. Même pour l'épreuve. On a déjà parlé la dernière fois, je l'ai dit. J'ai dit la caractéristique des affamés. Rendre grâce. Paul et Silas sont en prison. Ils ne se lamentent pas sur leur sort, mais dans la prison, ils rendent grâce. Et les portes de la prison s'ouvrent. Les chaînes tombent. Donc élever un propitiatoire, c'est être un adorateur purifié, épuré par les coups de marteau de la vie, et conduit à prendre la bonne position, avoir la bonne réaction face à ces coups. On reçoit tous des coups par la vie. Vous comprenez ? Est-ce que ça va ? C'est clair ? Prendre la bonne position. Quand les adorateurs élèvent un propitiatoire en prenant leur juste position, alors Dieu peut adopter la sienne et occuper le centre de la scène, dit Tommy. On ne peut pas allumer un feu si nous n'acceptons pas d'être nous-mêmes le combustible, prêt à être battu, prêt au sacrifice. Et David a été cet homme battu par tout ce qu'il a passé avec Saül, avec Absalom. Il en a vu. Et il a appris à prendre la bonne position. Si vous lisez les psaumes, vous entendez peut-être la plainte, le cri au début, mais à la fin du psaume, vous entendez l'action de grâce, la déclaration de foi. D'accord ? Alors ça, c'est un premier aspect. Ah, voilà. Ça, c'est pour parler du deuxième aspect, du propitiatoire. Un autre aspect, il a compris ceci. Il a dit, le péché et la mort balayent notre pays et le monde d'aujourd'hui. Je priais pour qu'il y ait des pleurs aujourd'hui dans le culte. Et Dieu a exaucé ma prière, il y a eu des pleurs. Thérèse, elle a pleuré. Parce que je veux parler de la zone des pleurs. Et Tommy a compris qu'il devait rentrer dans la zone des pleurs. Alors je donne un peu d'explication. Je vous redis ce qu'il a écrit. C'est l'heure où nous devons rentrer dans la zone des pleurs. Avec nos brasiers d'adoration, pour nous placer entre les vivants et les morts, entre la gloire pesante de Dieu et la chair sans défense des pécheurs. Dieu tient à ce que tous les hommes soient sauvés, mais il compte sur vous et moi pour accomplir le ministère de la réconciliation dans la zone des pleurs, qui est la zone d'intercession, où on se tient entre la gloire de Dieu et les pécheurs. Il nous a appelés à devenir des ponts entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Quand vous et moi, nous entrons dans la zone des pleurs, bien sûr, on se place à côté de Jésus, qui est le grand pont par excellence, qui est le grand intercesseur, qui est le propitiatoire par excellence, qui rend favorable, qui rend Dieu favorable. Donc il faut toujours prendre conscience qu'on ne se met pas tout seul, on se met avec Jésus. On se met avec Jésus, d'accord ? Face au trône, et on tend une main, les deux ailes, une aile vers en bas, et une aile vers l'autre chérubin. On peut dire vers une main vers Dieu, une main vers le monde. Alors cette semaine, j'ai commencé à prier comme ça. Je levais une main comme ça, puis une main comme ça. Et on va le faire, et on va le faire en conclusion. D'accord ? On est appelé à intercéder dans l'adoration jusqu'à ce que Dieu et l'homme se rencontrent. Waouh ! Ça, c'est notre ministère. Vous allez faire ça chez vous, cette semaine ? Allez, dans votre chambre, une main comme ça. Et vous priez pour votre famille, pour tous les vôtres qui ne connaissent pas encore, qui sont sans Dieu. Et peut-être vous allez pleurer. Il faut redemander à Dieu le don des pleurs, le don des larmes. Parce que c'est terrible d'être sans Dieu. Terrible, terrible. Il faut que Dieu redonne les larmes. Il faut que Dieu nous fasse rentrer dans la zone des pleurs. Jésus a accompli une œuvre parfaite sur la croix. Le don gratuit de la vie, il l'offre à tous les hommes. Et notre mystère de réconciliation sous-entend pour nous la nécessité de porter sa croix tous les jours et de le suivre dans la zone des pleurs, en faveur des perdus. Quand des adorateurs repentants, les mains couvertes de sang, celui de Jésus, prennent leur place dans un esprit de sacrifice entre les pécheurs et la gloire de Dieu, alors Dieu descend. Nos villes n'ont pas besoin de meilleurs sermons ou de plus beaux cantiques. Ils ont besoin d'intermédiaires qui peuvent atteindre Dieu d'une main et le monde de l'autre. Sommes-nous prêts à nous placer avec Jésus, je le redis, dans la zone des pleurs? Voilà comment élever un propitiatoire. Alors je termine avec un dernier point. Si je suis un chercheur de Dieu qui lui ouvre la porte quand il frappe, quand je réponds à son appel d'adoration intime, hein, qui élève un propitiatoire en étant cet adorateur épuré, brisé, dans cette zone des pleurs, alors c'est la promesse d'un ciel ouvert. Thérèse, tu me disais cette semaine, je prie pour un miracle à Wavrin. Et moi j'ai entendu ta prière comme quelque chose qui faisait écho à toute ma maquette en ce moment, de demander que la gloire de Dieu vienne, demander un ciel ouvert. Un ciel ouvert, que la gloire de Dieu descende. Oui. Oui. Ah oui. Amen. Ouais. Ouais. Amen. Amen. Ouais. Voilà. Amen. Ouais. Amen. Je remercie Dieu que Didier soit déjà dans cette zone des pleurs depuis longtemps. Amen. Alors, qui veut être dans cette zone des pleurs? Je prie pour ça maintenant, tout de suite, Seigneur, fais rentrer dans cette zone des pleurs, mes frères et sœurs, que nous rentrions dans cette zone des pleurs, qu'on puisse rentrer dans cette zone des pleurs. On fait confiance à ton Saint-Esprit. Libère les larmes. Pas, c'est pas pour du sentimentalisme, c'est vraiment pour incarner ta compassion et ton amour. Alors si ce chercheur de Dieu élève un peu propitiatoire, ouvre la porte, hein, d'accord, comprend vraiment quelle est la maison préférée de Dieu, hein, alors c'est la promesse d'un ciel ouvert. C'est la promesse que s'allume la lumière de sa gloire. Ésaïe 60, 1 et 2, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. » Sur toi, sa gloire apparaît. Et il n'est plus temps de chercher seulement une onction. C'est ce qu'il dit dans son livre, je crois que c'est juste. Il n'est plus temps de chercher une onction pour attirer beaucoup plus. Il nous faut chercher la face de Dieu. Il nous faut chercher, allumer la gloire. Dieu est descendu allumer sa gloire dans des régions tout à fait inattendues. Par exemple, j'ai lu un récit sur le réveil aux îles Hébrides. Je connaissais le dernier grand réveil en Europe, Pays de Galles, mais je connaissais beaucoup moins ce réveil aux Hébrides. C'était entre 1949 et 1952. Les îles Hébrides, c'est à côté de l'Écosse. Mais il faut voir, il faut lire, lisez, allez sur Internet et lisez. Incroyable. Incroyable, incroyable. Dieu qui est descendu, qui a ouvert le ciel. Lorsque Dieu descend, révèle sa gloire, c'est toute une ville qui peut en être affectée. Et c'était le cas aux États-Unis avec le réveil de Charles Finney, vers la fin des années 1880. On raconte que quand Finney marchait au milieu des ateliers de tissage d'Utica, à la fin des années 1880, la présence de Dieu était si forte que des ouvriers tombaient à genoux et se repentaient avant même que Finney ouvre la bouche. Avant même qu'il ouvre la bouche. Quand cette présence se rapprochait, les hommes comprenaient qu'ils étaient sales et que Dieu était saint. Vous n'avez pas envie de ça? J'ai envie de ça. Quand les cieux s'ouvrent sur une ville ou sur une nation, on ressent de manière particulière la présence de Dieu. C'est la forme ultime du combat spirituel. Nous devons rêver de voir Dieu descendre sur notre ville de Wavrin, sur le secteur des Web du sud de l'île, jusqu'à Ronchin. Voulons-nous chercher à allumer la lumière, la gloire de Dieu? La présence de Dieu désarme les forces des ténèbres. C'est simple, quand Dieu descend, il n'y a plus de bataille. Les démons, ils partent, ils fuient. Il n'y a pas de meilleure manière de mener le combat spirituel que d'allumer la lumière de la gloire de Dieu. Alors voyez ces quatre points, voilà, ils sont rappelés là. Si on peut méditer ça cette semaine. La maison préférée de Dieu, là où la passion pour lui est prioritaire. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur pour cette intimité. Hein, où on adore, on intercède en même temps. Et on peut élever un propitiatoire en entrant entre la gloire de Dieu et les pécheurs. En prenant la bonne position par les coups de marteau de la vie. Hein, et en entrant dans la zone des pleurs. Alors là, on allume la lumière de sa gloire. On termine dans la prière, d'accord? Je vous invite à vous lever, ceux qui le veulent. Hein. Voilà. Et vous pouvez, voilà, faites comme vous voulez. Mais moi, vous voyez, je mets une main comme ça, vers Dieu, et une main en arrière, vers le monde. Vers ces membres de ma famille qui ne connaissent pas encore, peut-être. Vers mes voisins, vers cette ville de Wavrin, vers cette ville de Ronchin, vers ce secteur des Web, vers Salomine, ses habitants, ouais. Seigneur, on sait que tu es omniprésent, omniscient, mais on veut voir ta présence manifeste. Et on comprend ce matin qu'on a à élever une maison, à te préparer un siège. Et on comprend que cette tente que tu veux redresser, restaurer, c'est la passion pour toi à restaurer. La même passion qu'avait David. Et on comprend aussi ce matin qu'on a à élever un propitiatoire. Qu'on a à nous lever avec Jésus, le propitiatoire par excellence, avec lui. Aide-nous, Dieu notre Père, à élever ce propitiatoire en nous levant régulièrement, comme ce matin, et en nous tenant avec Jésus entre ta gloire et le monde sans toi, entre ta gloire et notre ville. On veut bien, Seigneur, aller dans la zone des pleurs. Donne-nous d'être envahis par ton ardente compassion au point de retrouver le don des larmes pour les perdus, pour les sans Dieu. Nous ne voulons pas nous dérober à ton appel d'être cet adorateur épuré. Nous voulons être ce combustible pour allumer la lumière de ta gloire. Et si, voilà, l'un ou l'autre veut compléter cette prière, n'hésitez pas, allez-y. Oui. Amen. 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 Accompagne-nous. Merci Seigneur, toute cette semaine, dans ce ministère de réconciliation. Amen. 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 Bon dimanche.